Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information ce jour sur Radio Okapi. À la une aujourd'hui, Ituri, les forces armées de la RDC et l'armée ougandaise UPDF accentuent la pression sur les ADF à Lolwa. Des opérations conjointes saluées par le leader communautaire pour leur impact sur la sécurité dans les territoires de Mambasa. Beni, pénurie de carburant, la ville est sous tension. Plus de 60 camions bloqués à la frontière. Les prix à la pompe explosent et le transport devient inaccessible. Alerte sur une crise humanitaire majeure en RDC. Plus de 7 millions de déplacés en détresse. Bruno Le Marquis appelle à une mobilisation urgente face à la baisse de l'aide. Dans cette édition, le coordonnateur humanitaire revient sur les défis actuels et les solutions envisagées pour répondre aux besoins pressants des populations affectées. Il est notre invité du journal. Restez à l'écoute. Gisèle Cage à la présentation. Ce journal s'ouvre sur l'intensification des opérations militaires conjointes menées par les FARDC et l'armée ougandaise UPDF dans la province de l'Ituri. Ce lundi, les forces engagées poursuivent leur offensive contre le bastion des rebelles ADF dans la région de Lolwa, dans les territoires de Mambasa. Selon des sources sécuritaires, l'objectif est clair, neutraliser la menace que représente ce groupe armé pour les civils. Pendant ces temps, des leaders communautaire appelle les autorités militaires à renforcer la sécurité le long de la route nationale numéro 4 afin de protéger les habitants et les usagers de cet axe stratégique. Le point avec Martial Kizabiamungu depuis Bounia.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce lundi matin dans plusieurs villages de Lolwa, centre Bandegué, Matolo, Mikanya, Menzi, Samoko, Kiterin et Zakia. Des sources sécuritaires indiquent que les forces conjointes FARDC et UPDF ont pour objectif de déloger les ADF de l'air bastion de Madinadé. Tout en saluant ces opérations conjointes, de leaders communautaires et membres de la société civile de Mambasa appellent la population à la vigilance, mais aussi à renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité en dénonçant toute infiltration de l'ennemi. Ils demandent également aux forces conjointes de renforcer leur présence dans les agglomérations sur la route nationale numéro 4. Cela en vue d'éviter de prendre la population pour la cible pendant leur fuite suite à la pression militaire dans la région. Depuis hier lundi, l'armée régulière et son allié ougandaise, le UPDF, régularisent les trafics sur la route nationale numéro 4 entre Komanda et Mambasa pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu, un calme fragile règne ce lundi dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Les groupements de Kiondo, Bambo et Bukombo notamment sortent à peine d'un week-end marqué par de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et le combattant de Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC. Les combats se sont intensifiés dans les localités des Mobirobiru, groupement Kiondo, ainsi qu'à Bukombo, Kinjovu et Muko, groupement Bukombo. À Bambo, au moins deux bombes sont tombées au centre du village, causant d'importants dégâts sur les habitations civiles. Selon des sources locales, cela fait près d'un mois que ces groupes armés s'affrontent dans la zone, provoquant des déplacements massifs des populations, des incendies des maisons et des pertes en vies humaines parmi les civils. Nord Kivu toujours, l'administration du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa lance un appel pressant à l'assistance humanitaire en faveur d'environ 45 000 déplacés installés à Mangourjipa, chef-lieu du secteur de Bapéri, situé à près de 120 km de Butembo. Cet appel intervient à l'issue d'une mission d'itinérance menée dans plusieurs localités du sud du territoire visant à évaluer la situation sécuritaire et humanitaire. Selon le colonel Kiwewa, ces déplacés ont fui depuis plusieurs mois les attaques répétées de rebelles ADF dans leur village d'origine. Aujourd'hui, ils vivent dans des conditions extrêmement précaires. Le colonel Alain Kiwewa s'exprime au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Les déplacés sont estimés au moins à 45 000 déplacés, maintenant même à Mangourujipa et ses environs. Et ces derniers n'ont pas d'assistance. Donc, vous voyez, suite à cette situation d'insécurité, donc il est difficile aux partenaires d'accéder à cette zone. Mais je voudrais vraiment profiter de votre média pour faire ce plaidoyer au niveau gouvernemental et au niveau de nos partenaires, de voir de quelle manière ils peuvent nous aider ou nous assister par rapport à ces déplacés qui n'ont rien pour le moment, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'abri. Vous savez que un déplacé de guerre manque pratiquement tout. Il laisse tout derrière lui, il laisse son champ, il laisse là-bas surtout ses miniers, il laisse tout ce qui est en lui, il est pratiquement démuni de tout. Vraiment, j'insiste à ce que ceux qui vont m'écouter au niveau gouvernemental, au niveau de nos partenaires, ils peuvent nous aider quant à ce.
Kasaï Oriental vers une paix durable et à Katanda, trois chefs de groupement du territoire des Katanda ont scellé la paix après plus de 40 ans de tensions liées à des conflits fonciers entre les communautés Benakapuya, Benachimba et Benamwembia. Un forum sur la paix est désormais annoncé dans ces territoires. Cette avancée fait suite à la remise jeudi dernier à Kinshasa du rapport final du processus de réconciliation au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le document a été présenté par les responsables de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Kasaï. Sa Majesté Lembalemba Kela Katwa, président de cette alliance, affirme que Katanda est désormais une oasis de paix. Il s'exprime au téléphone d'Esther Ndalafina.
Le VPM nous a reçus, c'était pour que nous puissions préparer notre audience avec les chefs de l'État. Vous savez vous-même que hier, Katanda était une zone rouge. Aujourd'hui, c'est un oasis de paix. Nous avons laissé la paix. Donc, Katanda, guerre comme telle, il faut tourner ça à l'histoire. Nous allons encore rentrer pour accompagner cette paix-là. Et ça sera pour bientôt. On va organiser un forum de paix. Toutes les autorités seront présentes à Katanda pour cimenter cette paix-là. Ce qui divisait les enfants de Katanda, c'était le problème des limites des terres. Alors maintenant, nous allons demander au chef de l'État de nous faciliter la tâche en nous confiant les experts de l'Institut géographique qui peuvent descendre ensemble avec nous et montrer chacun ses limites. C'est le seul point qui reste. En plus, on ne refuse à personne d'aller cultiver chez Kapuya ou chez Chimba ou chez Mwembia.
Et puis, au Kasaï central, la Société congolaise pour l'état de droit exprime son inquiétude face aux dysfonctionnements persistants au sein de l'Assemblée provinciale. Dans une pétition adressée aux députés provinciaux, l'organisation leur donne un ultimatum d'une semaine pour surmonter leurs divergences. À défaut, elle envisage de lancer des actions citoyennes pouvant aller jusqu'à exiger la fermeture de l'Assemblée si les lois de la République le permettent. Dominique Kambala, directeur général de la Société congolaise pour l'état de droit, s'est confié à François Kadima.
L'Assemblée provinciale n'a pas fonctionné normalement depuis la dernière session de septembre 2024. La crise politique que vous avez provoquée a pour cause principale la recherche des intérêts égoïstes. Cette crise porte très gravement atteinte aux attentes des populations. Depuis le début de cette législature, l'Assemblée provinciale n'a produit aucun résultat concret. Appelons à votre bonne conscience pour résoudre votre propre crise par un dialogue sincère et franc, sans interférence du ministère de l'Intérieur et sans toute interférence politique. Exigeons la résolution sans délai de la crise politique qui risque d'entraîner des graves dégâts politiques et sociaux collatéraux. Prévenons qu'à défaut d'un compromis politique, entreprendrons dès la semaine prochaine les actions citoyennes visant à obtenir la fermeture de l'Assemblée provinciale si les lois de la République le permettent.
Économie à Beni, dans le Nord Kivu. La ville fait face depuis 4 jours à une pénurie des carburants. En cause, la contestation par les opérateurs économiques d'une nouvelle réglementation douanière sur la déclaration des produits pétroliers. Résultat, environ 60 camions-citernes venus d'Afrique de l'Est sont bloqués à l'entrée de la ville. Cette situation a provoqué une flambée de prix à la pompe. Le litre d'essence qui s'est vendu à 3400 francs congolais atteint désormais 5 000 à 6 000 francs chez les revendeurs informels appelés localement Kadhafi. Conséquence directe, le coût de transport explose. Une course à moto qui coûtait 1 000 francs revient aujourd'hui à 3 000 francs. Et Jeune Kambale Matembela, responsable de l'association congolaise de commissionnaires agréés en douane à Beni, indique que des discussions sont en cours entre la DGDA et les opérateurs économiques pour tenter de débloquer la situation. Il est au micro de Marc Marofimbo.
La situation n'est pas d'abord nouvelle. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle structure de prix qui a été publiée, les opérateurs économiques, parfois, ils ont du mal à s'y adapter. Mais la réalité, c'est que la structure a toujours été publiée, soit à la fin du mois, ou soit après 2 ou 3 mois. Et à chaque fois que cela est fait, s'il y a des petites modifications qui ont été constatées dans la structure, parfois, ça crée ce que vous observez aujourd'hui. Ce qui pose problème, effectivement, c'est l'adaptation des opérateurs économiques à respecter la structure de prix. Nous tous, nous sommes en train de faire un effort pour sensibiliser les opérateurs économiques pour qu'ils respectent la structure de prix. Il n'y a pas autre chose que ça. La structure de prix, c'est la norme, c'est la réglementation des produits pétroliers. Donc il n'y a personne qui peut vendre son propre prix dans la douane pour dire moi je vais payer autant. Elle n'est pas négociable. Nous les déclarants à douane et les douaniers nous appliquons tous la structure de prix. Et nous n'avons pas des arrangements locaux à faire ici avec les douaniers pour faire autre chose que ce qui a été publié.
Restons dans la région. Le parc national des Virunga concrétise sa vision d'électrification du Nord Kivu, devenant aujourd'hui le principal fournisseur d'électricité dans la province grâce à ses 4 centrales hydroélectriques Mutwanga, Matebe, Luviro et Rwanguba. Le parc produit actuellement environ 42 mégawatts sur le 100 mégawatts visé d'ici 2040 selon son chargé de communication. Pour Bienvenue Bwende, cette énergie a transformé le quotidien des populations locales, amélioration des conditions de vie, renforcement de la sécurité grâce à l'éclairage public et surtout l'émergence d'un tissu industriel local dynamique, création d'emplois et de richesses. Il s'exprime au micro de Denise Loukesso.
L'électricité produite vise à soutenir le développement socio-économique en faveur des populations riveraines du parc. Cela passe notamment par l'amélioration de la qualité de vie dans les ménages, le renforcement de la sécurité à travers l'installation de l'éclairage public, favoriser le développement d'une économie locale ne se basant pas sur l'exploitation des ressources naturelles du parc comme cela a été le cas depuis plusieurs années. À ce jour, grâce à l'électricité de Virunga, nous assistons à l'émergence d'une industrie locale, notamment dans les secteurs de la transformation de produits agricoles locaux, ce qui nous donne des produits made in Congo sur le marché local et international. Plus de 2000 entreprises ont vu le jour à travers la province et ont permis la création de plus de 20 000 emplois directs pour les populations locales.
À Matadi, dans le Congo central, une campagne de sensibilisation à la gestion des déchets plastiques a été lancée ce matin. L'initiative est portée par le conseiller communal d'Enzanza en partenariat avec l'entreprise Chinelvi Mystère, spécialisée dans la transformation des plastiques en pavés écologiques. Selon Chito Bugwalanga Mazo, conseiller à la commune d'Enzanza, cette campagne vise à lutter contre la pollution plastique en valorisant les déchets à travers le recyclage tout en contribuant à la protection de l'environnement. Le point avec Nana Pluriche Mambou.
Cette campagne est lancée au rond-point Belvédère dans la commune de Nzanza à Matadi. À cette occasion, les conseillers de la municipalité de Nzanza et l'équipe de l'entreprise Chinelvi Mystère, œuvrant dans les recyclages des plastiques, ont ramassé rien qu'au rond-point Belvédère une grande quantité d'emballages plastiques. Cette campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques a besoin d'un appui financier. Chito Bungwala Ngamazo, conseiller communal de Nzanza, en appelle à l'accompagnement des autorités.
Avec l'établissement Chinevi Ministère qui est spécialisé, demander aux autorités de les appuyer. Parce que tout ce qu'elle fait comme travail de récupérer, de recycler, ça se fait d'une manière un peu artisanale. Or, si les autorités donnent des moyens, ils vont acheter des machines, peuvent avoir une capacité de production industrielle, ça va faciliter la production des pavés écologiques et ça va résoudre tout ce qui est comme problème dans notre environnement.
Rappelons qu'à cause, entre autres, des déchets plastiques ayant bouché les caniveaux, de fortes inondations ont causé des dégâts matériels et humains énormes dans la commune de Nzanza en 2024. Matadi, Nana Plirich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un impressionnant panache de cendres s'est élevé ce lundi dans l'est de l'Indonésie à la suite d'une éruption du mont Leo Tobi Laki-Laki. Ce volcan a deux sommets culminant 1584 mètres sur l'île touristique de Flores est entré en activité à 11h05 heure locale selon l'agence indonésienne de vulcanologie. Une éruption du volcan Leo Tobi Laki-Laki s'est produite avec une colonne de cendres atteignant environ 18 000 mètres au-dessus du sommet, a précisé l'agence dans un communiqué. Aucun dégât ni victime n'a été signalé pour l'instant. Contrairement à une précédente éruption survenue il y a quelques semaines, aucun vol n'a été annulé à ce stade.
L'invité.
Notre invité du jour est Bruno Lemarquis, coordinateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Capi, il dresse un tableau préoccupant de la situation humanitaire que vivent plus de 7 millions de déplacés internes à travers le pays, alors que l'aide humanitaire connaît une baisse significative. Bruno Lemarquis évoque les défis actuels et les pistes envisagées pour répondre aux besoins urgents des populations africaines. Il répond aux questions de Ronelien Tibonera.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Pourriez-vous nous donner un aperçu de la situation humanitaire actuelle en République démocratique du Congo? Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés, mais aussi les opportunités qui pourraient être saisies?
Donc, comme les auditeurs le savent, bien sûr, la crise humanitaire en République démocratique du Congo, c'est une crise qui dure depuis très longtemps. C'est certainement la plus prolongée du monde. C'est une des plus complexes au monde, une des plus sérieuses, des plus graves au monde. Actuellement, quand on regarde les autres crises humanitaires au monde, la crise en RDC est la troisième en termes de population affectée, après le Soudan et après l'Afghanistan. Donc des millions et des millions de personnes sont en souffrance en République démocratique du Congo et ont besoin d'assistance. C'est une crise, essentiellement une crise de protection, qui touche énormément les femmes, les filles et les enfants. C'est une crise qui est connue pour la question des violences sexuelles liées au conflit, avec des chiffres qui font toujours froid dans le dos, tellement ils sont élevés. Au pic de la crise récente de janvier-février, avec tous les combats, tous les conflits, l'UNICEF avait estimé qu'il y avait un enfant violé toutes les 30 minutes. Imaginez ça, un enfant violé. C'est aussi une crise de déplacement, depuis très longtemps. Des millions de personnes sont déplacées en République démocratique du Congo. Actuellement, le chiffre qui fluctue toujours, mais c'est à peu près 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 1,5 million sont déplacées en Ituri, ce qui en fait une grosse partie de la population de l'Ituri est déplacée. 1,8 million au nord Kivu, 1,4 million au sud Kivu, 400 000 déplacés au Tanganyika. Et puis également, il ne faut pas oublier les autres crises, notamment celle du Grand Bandundu, qui déplace également beaucoup de monde avec la crise des Mombondo.
Alors, comme nous parlons de cette crise humanitaire récemment, la population congolaise a assisté à cette visite de Tom Fletcher, qui est le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de tirer un bilan de cette visite effectuée au pays?
Alors, on était très très contents d'avoir la visite de Monsieur Fletcher, donc qui est le sous-secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires. C'était la première fois depuis 2019 qu'il y avait la visite de la personne qui occupe cette fonction. Donc, pour une crise de cette ampleur, c'était une visite très très attendue. Il a eu l'occasion de rencontrer les autorités nationales. Il a également pu aller les accompagner, donc, à l'est. Nous avons été à Goma sur le terrain. Nous avons fait des visites de terrain à Minova, donc au sud Kivu, Sacha et à Nyiragongo, avec des interactions directes avec des communautés affectées par les conflits. et notamment des retournés, puisque comme vous le savez, le grand changement dans la suite aux événements de janvier-février au nord Kivu et au sud Kivu, c'est le retour, disons, le million de personnes qui étaient autour de Goma, des personnes qui sont rentrées chez elles, soit de manière volontaire, soit de manière forcée. Il y a eu beaucoup de retours forcés également. Ça a été une occasion pour lui, qui est nouveau dans son poste, de voir sur le terrain la situation. Cette visite s'est passée à un moment très particulier en ce qui concerne au niveau global, du fait de la crise financière mondiale par rapport au financement humanitaire, du fait de coupures budgétaires par certains États membres, certains donateurs, notamment les États-Unis d'Amérique. Pour que les auditeurs sachent, pour les USA, la RDC en 2024 était le premier programme humanitaire au monde avec 920 millions de dollars. Et du fait des coupures budgétaires, ça a un impact terrible sur les partenaires humanitaires. La RDC était également le pays le plus dépendant au monde de cette aide américaine. Donc l'impact est vraiment massif sur les partenaires, que ce soit les ONG locales, les ONG congolaises, les ONG internationales, les agences des Nations Unies. Nous ne sommes plus actuellement en mesure de répondre à tous les besoins. Nous ne l'étions pas déjà, mais encore moins. Donc ça a été une occasion pour lui, dans son plaidoyer mondial, de dire « je reviens de RDC, j'ai vu l'impact de mes yeux, en parlant à des personnes affectées, de toutes ces coupures budgétaires au niveau mondial ».
De nombreuses communautés du Nord Kivu, du Sud Kivu et plus largement dans l'Est de la République démocratique du Congo vivent dans l'incertitude. Et cette incertitude, c'est entre violence, déplacement forcé et manque de perspectives. En tant que coordonnateur humanitaire des Nations Unies, quel message souhaitez-vous partager aujourd'hui à toutes ces communautés qui vous écoutent ?
Aux communautés affectées, je veux juste dire que les collègues humanitaires sur le terrain, le système humanitaire, fait tout ce qu'il peut pour être à leur côté, malgré les difficultés auxquelles nous faisons face en ce moment, la principale étant la question des financements. Et chaque fois que je vais sur le terrain, je vois bien ça. C'est les organisations qui ont vraiment du mal à continuer, par exemple, la provision de services, services de santé, d'eau potable, etc. Mais on reste vraiment absolument mobilisés pour apporter l'assistance humanitaire aux communautés les plus affectées.
Bruno Lemarquis, nous disons merci.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi.
C'était Bruno Lemarquis, coordinateur de l'action humanitaire en RDC. Il s'exprimait sur la situation préoccupante des déplacés internes et les défis liés à la baisse de l'aide humanitaire dans le pays. Un entretien réalisé par Ronéline Timonera. Merci de votre fidélité. C'était Gisèle Cage à la présentation de ce journal. À la mise en onde, Billy Landry Betou. Coordination, Élisée Chukota. Supervision, Alain Rong. Nous vous remercions chaleureusement pour votre écoute. Restez connectés avec nous via WhatsApp en suivant le lien disponible sur nos pages Facebook et X. Retrouvez également nos articles détaillés sur notre site web www.radiocapi.net. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.